France Culture. Marine Selle, bonjour.
Bonjour Caroline.
Pour ce quatrième temps de Nos Avoix Nues, après avoir parlé de votre enfance en Allemagne après la guerre, après avoir évoqué les années marxiste-maoïstes et mitterrandiennes, on est allé jusque-là, après avoir parlé des rencontres et de l'écriture, je voudrais vous proposer aujourd'hui d'évoquer votre métier d'éditrice, dont vous dites dans l'histoire, l'un de vos livres, que c'est être disponible au talent. Alors on va essayer de développer cette idée d'être disponible au talent. Mais pour faire le lien avec l'épisode précédent, l'épisode 3, j'ai envie de vous demander si être éditeur, être éditrice dans votre cas, c'est un métier d'amoureuse.
D'amoureux, oui, un métier d'amoureux, exactement. La phrase que vous venez de citer, c'est Yann Andrea qui m'a dit ça, disponible au talent,
dans
je trouvais
l'histoire.
Ça parfait, oui. C'est vrai qu'il y a une très grande disponibilité nécessaire, qui d'ailleurs, puisque j'ai fait de la psychanalyse, je pense qu'elle est d'autant plus grande quand on est soi-même en analyse. On a une écoute plus aiguë et plus fine, finalement, de ce que disent les textes aussi, d'ailleurs, mais les auteurs aussi en présence. Françoise Verny a dit que l'éditeur, être éditeur, c'est le plus beau métier du monde. Voilà. Alors, elle a fait ce métier à sa façon. Alors, pourquoi ce serait le plus beau métier? On avait déjà parlé la dernière fois du bonheur de donner naissance à quelque chose. Et l'éditeur, il a cette toute-puissance. Et on peut jubiler avec cette toute-puissance de passer d'un état nihilo. Non, rien, un manuscrit, enfin, qui est vu uniquement par l'auteur qui l'a écrit, à une présence dans le monde de la littérature et de se faire des amis lecteurs et lectrices. Donc c'est une puissance incroyable de pouvoir faire ça. C'est presque une sorte de transe, non? On est dans une sorte de transe. Pour moi, en tout cas, c'était comme ça. Quand je reçois un manuscrit qui me plaît, je suis complètement, ou il me plaît pas dans ce cas-là, il retourne par la poste, ou alors quand il me plaît, et c'est vrai qu'il me met dans un état de transe, de vouloir connaître l'auteur, de vouloir le saisir, d'avoir une relation avec lui qui le satisfait. Ce sont des moments de fusion, en fait, d'extase. Ce travail, à partir d'un manuscrit qui est toujours un tout petit peu, on peut toujours un tout petit peu changer, donner des conseils, etc. Et si l'auteur accepte ce qu'on propose, mais il y a cette sorte de fusion qui est un ressenti absolument merveilleux, quoi. Voilà. Sorte de transe, ouais.
Quand avez-vous commencé à éditer? Est-ce que c'est avec la première expérience des éditions Lieux communs en 1980? Ou est-ce que c'est avant, quand vous passiez déjà des textes à des éditeurs allemands dans les années 70? Vous diriez que vous avez commencé quand?
J'étais pas éditrice dans le sens strict du terme. J'étais passeuse.
Dans le sens professionnel du terme, vous ne l'étiez pas, mais
non.
Vous étiez déjà passeuse de textes.
Oui, passeuse de textes depuis, enfin, je sais pas, depuis que je suis
née.
Quasiment depuis que je suis née, enfin, tout à fait, mais. Dès que je suis arrivée en France, ce qui m'intéressait vraiment beaucoup, c'était la transmission, que j'aimais un texte. Et d'ailleurs, c'était intéressant. Par exemple, j'aimais beaucoup Sylvie Germain, qui avait fait un petit texte pour moi. Et je me suis donné beaucoup de mal pour proposer aux éditeurs allemands. Et j'ai compris quelque chose. Ils ont dit, la réponse était négative, enfin plus maintenant, mais à l'époque, que c'était un grand éditeur m'a dit ça. C'était Blut und Boden. En allemand, on dit ça, et c'était un peu la littérature sentimentale, non? Qui cherche la terre, qui cherche le sang, qui cherche l'intériorité perturbée, bon, qui n'était pas tout à fait dans une logistique rhétorique, voilà. Ils m'ont dit ça, j'étais très... Et d'ailleurs, Marguerite Duras, ils n'ont pas aimé non plus au début.
Hein. Oui, parce que vous passiez Marguerite Duras, vous passiez André Glucksmann, vous passiez Michel Foucault.
Oui, bon, alors...
Certains passaient plus
Michel
facilement
Foucault,
que d'autres.
C'était plus facile.
Voilà.
Hein, parce que ça, c'était tout à fait dans leur registre, hein, de l'esprit de l'école de Francfort, etc. Non, c'était pour les écrits intime où quelque chose de féminin se révélait, je pense. Et ils ont mis ce féminin qui se révélait, en fait, en rapport avec un peu la littérature du Troisième Reich. Hein. Parce que Pluton Poden, c'est une expression du Troisième Reich. Voilà. Bon, entre-temps, tout ça, heureusement, ça a beaucoup changé. Voilà. Donc ça, c'était très tôt. Mais la
première vraie expérience professionnelle, c'est le lieu commun.
La première expérience professionnelle, c'est le lieu commun. En 80, je pense.
C'est ça. C'est moi qui... Oui, c'est en 1980. En tous les cas,
oui,
c'est ce
voilà,
que j'ai
dit. Voilà, c'est ça. D'accord. On avait des bureaux rue de Turenne. Et j'étais avec trois hommes. Ça s'est assez bien passé. Enfin, je sentais qu'ils n'avaient pas tout à fait le même regard sur les textes et le même ressenti sur les textes que moi. Donc, il y avait une petite différence dans notre...
D'appréciation
et de nos lectures. Donc, c'est pour cette raison-là précise que j'ai dit au revoir à lieu commun et que j'ai fondé ma propre maison d'édition.
En 1986, ouais. La maison Marensel, de votre nom, avec une ligne éditoriale. Faire découvrir l'Europe des écrivains, garder le souci de l'âme.
Oui. Alors, c'était très, très... À l'époque, c'était le mot âme. D'ailleurs, il était beaucoup plus un tabou que maintenant. C'est revenu, hein, ou c'est venu. Je me rappelle que Françoise Vanier, justement, elle m'avait appelé en disant « Tu vas pas dire des choses comme ça. C'est fleur bleue. »
C'est quand du romantisme allemand.
Voilà, c'est du romantique allemand. Voilà. Et quand j'ai choisi cette phrase, la garder les soucis de l'âme. Je ne savais pas qu'en même temps, au Collège de France, Michel Foucault avait fait la dernière conférence de Foucault au Collège de France avait comme intitulé exactement cela, « Garder le souci de l'âme ». Il voulait dire dans son texte de garder une intégrité, tout simplement.
Donc vous, et chez vous aussi, c'était une intégrité, c'était,
absolument,
c'était ça que vous voulez dire.
Ouais.
Couverture rouge vif,
ouais,
de vos livres.
Oui.
Ça, c'est vous qui avez choisi, j'imagine.
Ah oui, je pouvais tout choisir. Là, c'était ma maison.
Rouge vif, c'est un reste de vos engagements des années 70.
Peut-être, c'était un beau rouge et c'était rare le rouge hein, sur les couvertures. Voilà. Ça s'appelait la petite bibliothèque européenne et c'était merveilleux de faire ça parce que de par ma langue allemande, j'avais des auteurs que j'ai publiés. J'ai pu les lire en allemand parce que les Allemands de l'Est, non, par exemple, les Allemands étaient très en avance sur les traductions par rapport à la France. Et donc le catalogue, il est venu vraiment quasiment tout seul. Et c'était des petits chefs-d'œuvre.
Avec parfois des auteurs et des autrices totalement inconnus en France, mais qui depuis sont devenus connus, et pas seulement en France. Par exemple, Herta Müller.
Ah oui.
Vous avez été une des premières, la première,
ouais,
à éditer Herta Müller, qui, je le rappelle, a eu le prix Nobel de littérature.
Voilà, exactement.
Quelques années plus tard. Vous avez édité Bohumil Rabal.
Oui.
Et puis... En 92, Marensel, les éditions Marensel sont rachetées par un gros groupe, une grande maison, Kalman Levy, mais vous continuez avec votre petite bibliothèque européenne. Hermann Hesse, Ida Fink, Rainer Maria Rilke, Arthur Koestler.
Luandra Salomé.
Six Nottebohm, Régine de Tambay, il y avait quelques Français au milieu. Georges Seferis, unique roman du prix Nobel 1963 avec Six nuits sur l'Acropole. Donc un certain nombre...
André Chédide,
française, Václav Havel, Julia Kristeva, Jean Nouvel, Frédéric Boyer. C'est très éclectique.
Là, les derniers que vous citez, c'était pas dans la bibliothèque rouge. Voilà.
C'était donc après.
On a pu, à partir du moment où j'étais chez Kalman Levy, avec l'accord de Jean-Étienne Cohen-Seat, on a voulu faire le même format, mais avec une couverture noire, des essais, des petits essais. Et là, il y a eu Václav Havel, il y a eu Jean Nouvel, Derrida, Baudrillard.
Kristeva,
voilà. Donc on a chopé comme ça des plus grands.
Ce qui veut dire quand même qu'il y avait toujours, Marensel, une dimension, une volonté, une ambition, une ligne européenne.
Oui. Oui.
Et c'est ce qui a fait que vous avez été élue femme d'Europe en 1995, élue par un jury de parlementaires et de journalistes européens à Bruxelles.
Oui, exactement.
Vous êtes sensible à ce type d'honneur? Ça vous a fait plaisir
ou... ça aurait fait plaisir à mon papa, je pense. Bon. Non, on peut pas dire que ça fait pas plaisir. Ça fait évidemment plaisir. Surtout la consécration. Enfin, je veux dire, c'était tellement moi qu'une Allemande gagne un prix pour la France, non? Voilà. Et la deuxième cérémonie, c'était à Bonn, où Angela Merkel, qui était ministre de la Santé à l'époque, m'a donné la médaille.
La médaille. Enfin,
voilà. Non, c'était un moment heureux, absolument. Et après, c'était Michel Barnier, qui
ici ministre des Affaires européennes.
Oui, voilà, qui m'a donné la médaille pour la France. Et c'était c'est un très très joli bijou que je porte jamais, mais il est joli. C'est deux mains comme ça, l'une contre l'autre, les deux paumes là. Et à l'intérieur des deux mains, il y a le globe européen avec les étoiles.
Le globe terrestre ou le continent européen?
Le continent européen, oui.
Vous ne tenez pas tout le monde
dans vos mains. Non, non, mais c'était sympa.
Alors, découvreuse de talent, soucieuse de l'âme, mais aussi, et vous le dites, Marensel, dans Tout est là, que pour vous, le métier d'éditrice ou d'éditeur, c'est aussi un jeu de poker, avec les paris, avec les coups éditoriaux. Jusqu'où êtes-vous allé dans ces coups? Est-ce que ça va jusqu'à bluffer pour tromper l'adversaire? Tricher même?
Oui, oui, un peu, oui.
Attention, soucieuse de l'âme, intégrité, avez-vous dit.
Non, c'est...
Ça veut dire quoi, en fait, pour des auditeurs et des auditrices qui ne connaissent pas ce métier?
On prend des risques, non? On prend des risques et parfois on prend des risques sans savoir si ça va faire ça comme tirage ou comme notoriété. Donc on prend ce risque-là et à partir de son propre engagement. Alors on pense avoir un full house, notre, par exemple dans la main, non, comme au poker. Et il s'avère que c'était pas un full house. C'est-à-dire, il y avait plus fort. Non, full house, parfait. Bon. Mais par exemple, avec un brûlant. Non. Bon,
parfois, vous gagnez pas toujours, quoi, vous voulez dire.
Non, bien sûr qu'on gagnait pas toujours.
C'est... Vous n'y êtes pas à tous les coups.
Mais ce jeu, il est intéressant et à Francfort, j'aimais bien jouer. C'est d'ailleurs une phrase de Pierre Belfond qui, à Francfort, m'a dit cette phrase-là. À
propos éditeur, de lui poker, aussi.
Éditeur, oui. Et à Francfort, c'était, alors maintenant plus du tout parce que les contrats sont faits en avance, mais à Francfort, c'était un enjeu. C'est-à-dire, il y avait des livres comme ça qui apparaissaient et que tout le monde commençait à s'intéresser aux mêmes livres. Et après, il fallait ou avoir beaucoup d'argent, ou avoir la confiance de l'éditeur étranger.
Pour acheter les droits.
Pour acheter les droits, ou avoir des préférences les deux. Pour emporter le morceau.
Tant qu'à faire. Mais est-ce que vous avez toujours été porté par le souci du texte, ou est-ce que vous assumez complètement l'idée de succès commercial, même si ça pouvait paraître contradictoire avec l'idée d'une littérature non capitaliste ou vos engagements précédents? Mais est-ce que les coûts, c'est aussi, ben oui, on est là pour gagner de l'argent.
Oui, alors comme ça, de tempérament, c'est pas tellement mon truc, non. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que j'ai quand même fait faillite plusieurs fois, non? Je veux dire, j'ai dû m'adosser à une autre maison d'édition.
Il y a eu Pauvert à partir de 1999.
Voilà, et pour pouvoir continuer à exister.
Puis, Libella, ouais. Entre-temps, vous avez été indépendante. On en parlera tout à l'heure.
Oui, oui, oui. Donc, si j'avais pu éditer sans souci d'argent, ça aurait été très bien. Mais j'étais très mauvaise gestionnaire. Enfin, c'était pas ça. Mon truc, c'était ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire d'être emballé par un texte et avoir la chance de pouvoir le porter et de rendre l'auteur heureux. Et d'ailleurs, c'est la rumeur qui circulait un peu à mon égard, c'était voilà quelqu'un, elle vous voit ses auteurs et elle tutoie les patrons. Et c'est vrai, les patrons, j'ai pas un respect particulier pour les patrons, hein. Mais les auteurs, oui, ce sont des génies en puissance, quoi.
Y compris Peter Sloterdijk, Marensel, qui a été un compagnon de route, et qui reste d'ailleurs un compagnon de route, que vous avez beaucoup édité. Vous continuez de le vouvoyer? Ça reste un auteur que vous avez édité?
Oui, à Péta, il reste tout à fait, mais non, je ne le vous vois pas parce qu'en Allemagne, on se tutoie.
Tout simplement. Philosophe allemand, Peter Sutterlake.
Voilà, oui. Non, Péta, il m'a séduit. Bon, c'est un immense philosophe, mais ce qui m'a séduit dans le livre. D'ailleurs, il a écrit la règle pour les parcs humains, qui était. Il s'est mis en opposition avec l'école de Francfort à cause de ce texte-là, qui était très, très violent. Mais comme ça, dans une conversation, après avoir parlé d'Aristote, etc., il dit des phrases du genre « Votre Descartes, là, je pense donc je suis, non ?» Moi, je dirais pas ça comme ça. Moi, je dirais « On pense à moi, donc je suis. » Et ça, ce sont des petits moments de bonheur, non? Un journaliste lui a dit, mais vous écrivez beaucoup et des gros livres, etc. Et il a répondu, des livres, ce sont des lettres un peu épaisses, adressées à des gens qui ne savent pas encore qu'ils sont vos amis. C'est joli, non?
C'est joli.
C'est un penseur, mais il a une langue extraordinaire, des métaphores, et vous êtes transporté, vous comprenez pas toujours tout, mais vous êtes dans le bain, comme avec Lacan, un peu. On comprend pas toujours tout de Lacan, mais la langue est formidable. Hein.
Alors là, on vous entend, Maren Selle, et on entend effectivement le côté que vous avez porté depuis longtemps, même depuis toujours, qui est un côté, disons, plus intellectuel, avec Peter Sloterdijk, mais avec Jean-François Kervéhan, avec Richard Morgiev, qui sont des auteurs qui répondent, disons, à une politique d'auteur. Mais ce qui a fait dire parfois que votre méthode a déconcerté, je reprends là le titre d'un article du Figaro en 2002, la déconcertante méthode de Maren Selle, c'est qu'il y a effectivement un mélange de politique d'auteur exigeant et de coup marketing. Alors, on peut en citer deux, des coups marketing. Il y a eu Christine de Vierge-Joncourt, par exemple. Christine de Vierge-Joncourt, je le rappelle, maîtresse de Roland Dumas, ancien ministre de François Mitterrand et ancien président du Conseil constitutionnel, condamnée dans l'affaire Elf. L'affaire Elf étant le plus grand scandale politico-financier de la Ve République. Et vous avez édité le livre de Christine de Vierge-Joncourt, La putain de la République. Et deuxième coup, Loana, qui fut la première participante de cette émission de télé-réalité, Le Loft, au tout début des années 2000, je crois. Voilà, donc deux livres que l'on vous doit. Alors là, on a l'impression d'un grand écart.
Bah oui.
C'est ça aussi le métier d'éditeur.
Mais ça aussi, oui. Un, je voulais avoir de la paix, on peut dire, pour éditer des livres que j'avais vraiment envie d'éditer.
Les livres exigeants.
Exigeants, et qui se vendaient pas toujours beaucoup. Donc, la maison était toujours un peu précaire, enfin, l'existence de la maison était un peu précaire. Et je savais que j'allais bluffer mes patrons en ramenant, par exemple, de Vierge-Joncourt et Loana. Ça les a bluffés, franchement. Parce que, un peu par ce que disait Yann, la disponible au talent, non, ou l'écoute, et pour l'un et pour l'autre, je les ai vus, et je crois que j'ai compris qui ils étaient, ces deux femmes-là, non. Et c'est ça ce qui a emporté, c'était pas de mettre 20 000 euros ou 200 000 euros de plus. Il y a un contact j'aime beaucoup créer des contacts. Alors pour Loana, je trouvais que c'était vraiment une pauvre fille, quoi. Et si ça n'avait pas été des femmes, je ne l'aurais pas fait.
Quand vous dites pauvre fille, juste, c'est pas du tout un terme méprisant dans votre bouche. Pauvre fille, c'est une fille qui n'a pas eu de chance dans la vie.
Oui,
c'est
qui n'a pas eu de chance dans la vie et qui a fait un peu manipuler par sa mère des métiers qu'elle ne voulait pas faire. Et elle était perdue. C'était une fille qui était vraiment perdue. D'ailleurs, pour ça, le titre. Elle m'appelait Miette, hein. C'était sa mère qui l'appelait Miette. Donc ça, c'est pas très agréable de porter ça, que votre mère vous appelle Miette, donc un petit rien du tout, hein. Bon. Et moi, j'avais envie de l'élever un peu, de rehausser un peu, qu'elle puisse dire d'où elle vient et quelle est sa... C'est pas une mauvaise fille, hein. Pas du tout. Et d'ailleurs, j'adore quand des gens modestes ou perturbés peuvent se transformer. Et elle, quand elle avait un peu plus confiance en elle, on est allé voir à la réunion des représentants, Elle a été épatante, mais les représentants, ils étaient incroyables. Parce qu'elle est venue...
C'était impressionnée.
Impressionnée, très impressionnée, parce que qu'est-ce qu'elle a dit ? Alors, elle est arrivée habillée en bimbo, quoi, avec une jupe en cuir, avec des franges, enfin, bon, voilà, sa grande chevelure. Et elle a dit, non, mais moi, je suis, enfin, très modeste, parce que beaucoup de gens me suivent, vous comprenez, sur les réseaux. Et je suis très modeste et je suis pas écrivain, mais si je peux un peu servir à ce que les gens viennent à nouveau dans les librairies pour acheter mon livre, ils achèteront d'autres aussi et elles se donnent bonne conscience, quoi. Et moi, je trouvais ça épatant, vraiment épatant.
Ils ont marché, ces deux livres, le livre
formidable,
sur Christine de Viégeancourt et le livre de Loana.
Oui, très bien, oui. Oui, oui.
Ça vous a permis d'éditer des livres
Oui, non, c'est ça.
À côté,
absolument.
Plus difficile à vendre, vous voulez dire ?
Ouais. Oui, bien sûr.
C'était l'idée aussi.
Mais tous les éditeurs font ça. Hein. Ils ont besoin de temps en temps d'un best-seller pour éditer des livres qui leur tiennent à cœur et qui se vendent pas.
Vous avez aussi vu Marensel évoluer, de fait, le métier d'éditeur et le monde de l'édition. Des années donc 70-80, tout début des années 80, à aujourd'hui, année 2020. Vous avez vécu en chef d'entreprise, puisque vous étiez directrice, présidente, je ne sais pas comment vous le disiez, mais de votre propre maison, Marensel. Et puis vous êtes passée dans les mains de maisons plus grosses, adossées à des éditeurs ou à des groupes. Quelle est la différence entre être indépendante et être dans un groupe ? Peut être paradoxal, mais dans quelle situation vous êtes-vous sentie plus libre ?
J'ai été très libre. Hein.
De toute façon.
Ah oui. J'ai eu de la chance parce que Jean-Étienne Cohen-Seat, il est venu me chercher au même
Kalman
moment.
Chez Kalman
Levy. Kalman Levy, où j'en avais besoin. Il n'y a jamais eu aucune opposition à ce que je faisais. Non, j'ai été vraiment libre dans mes choix et chez Fayard aussi. Jusqu'au moment où il y a eu un clash et puis voilà, c'était fini.
Mais donc quelle est la différence que vous essayeriez d'analyser entre être indépendante ou avec
ouais,
un groupe.
Quand ça ne marche pas et vous êtes seul, mais à un moment donné vous avez plus d'argent, il faut déposer le bilan. Quand vous êtes dans un groupe et vous avez un bon patron, vous pouvez améliorer la situation et
jusqu'à ce qu'il ferme la maison ou est-ce qu'il vous licencie.
Ouais, ouais.
Voilà. Disons que vous avez un peu de marge de manœuvre,
voilà.
un peu de sursis.
Oui, voilà, exactement. Okay. Ouais. Ouais, ouais. Et après, bon, il y a un tas de choses qui rentrent en jeu, aussi parfois pour des raisons politiques. Je sais que j'avais fait après la défaite de Jospin.
En 2002. C'est-à-dire la victoire aussi, ça allait avec,
oui,
de Jean-Marie Le Pen au premier
tour
de la présidentielle.
Et moi, je me sentais vraiment motivée pour tout de suite faire un livre en réponse à cette situation. Donc j'ai demandé autour de moi à des écrivains, à des philosophes, etc., de alerter sur la menace de l'extrême droite. Et je sais que ça n'a pas plu à mon patron de l'époque. Je l'ai fait quand même, il m'a laissé faire, mais après, il n'a pas aimé. Enfin, ça a joué dans notre désaccord.
En votre défaveur.
Ouais.
Et alors vous dites que c'était merveilleux, ce monde de l'édition et ce métier dans les années 70-80, comme si vous laissiez entendre que tout a changé. C'est vrai qu'on voit aujourd'hui, en tout cas, avec les rachats, la concentration, la baisse des ventes, la concurrence des écrans, de grandes menaces, de grands dangers qui pèsent sur le monde de l'édition. Vous diriez que l'édition est morte ?
Non, je ne dirais pas ça. Non, en plus, je ne suis plus, donc je ne vais pas juger. Mais non, ce qui est menaçant, c'est... Bon, il y a toujours eu des manœuvres comme ça de rachat de maisons, enfin, pour des raisons économiques, etc. Mais là, ce qui se passe, c'est politique. C'est-à-dire, c'est pas seulement qu'on rachète des maisons d'édition, mais qu'on impose une idéologie. Hein. C'est ça ce qui se passe. Et les amis que j'ai encore dans l'édition, mes amis d'autrefois, et qui sont restés des amis aussi, ils sont dans un paradoxe et dans un déchirement total. Ça, c'est... voilà.
C'est tout ?
Non, mais les mœurs ont changé, non ? Moi, je raconte ça par rapport à Francfort. À Francfort, c'est le facteur humain qui était très très fort dans l'édition, non ? Parce qu'on partageait des choses à cause des lectures qu'on a eues, etc. Et parce qu'on s'appréciait. Il y avait, quand on arrivait à Francfort, on trouvait tout de suite 4-5 personnes qui étaient un peu sur la même ligne éditoriale. On s'appréciait, on se donnait des, on donnait des conseils entre nous, etc. Et après, on signait un contrat, mais ça venait après, non? Bon. Et maintenant, tout est préparé et tout est à distance, non? Je veux dire, les gens se connaissent quasiment plus. Ça fonctionne par Internet, on fait les contrats par Internet. Le livre, quand vous arrivez à Francfort, il est déjà vendu parce que ça s'est fait sur l'écran. Et, voilà, donc c'est pas le même monde, je pense.
Est-ce qu'il y a un grand éditeur ou une grande éditrice qui a été comme un modèle pour vous?
Oui, en Allemagne, c'était Zocamp, c'était Unze.
Et alors pourquoi? En quoi?
En quoi? Parce que il avait... des auteurs que j'aime, il les avait tous, quoi, quasiment.
Donc, vous alliez faire votre marché chez lui?
Oui. En partie, oui. Non, j'avais quand même deux, trois avec lesquels ça fonctionnait bien. Mais par exemple, encore aujourd'hui, c'est la maison d'édition de Peter Sloterdijk, de Peter Handke, de Max Frisch, de Célan, tous ces auteurs que j'aime avant tout, c'était chez lui.
Marensel, l'édition, c'est aussi un petit monde, c'est aussi un milieu, c'est aussi un endroit, même si vous parlez beaucoup de Francfort, c'est aussi à Paris souvent que ça se passe, ça se passait. Vous ne travaillez plus dans l'édition, mais vous restez tout à fait en alerte sur des textes, des auteurs qui peuvent publier des choses ou chercher preneurs. Vous avez connu le Saint-Germain de la Belle Époque, vous avez connu cet âge d'or avec les rendez-vous dans les cafés de Flore, la librairie La Une, la librairie Écume des Pages, voilà, ce petit monde-là. Est-ce que tout ça vous manque? Est-ce que l'édition vous manque?
Oui, bien sûr, oui. Non, mais c'est une possibilité de s'épanouir, c'est grave même, c'est formidable, parce que les auteurs, alors une fois qu'on a bien travaillé sur le texte, après, mais on s'aime d'une certaine façon. Moi, j'aurais pas supporté qu'un auteur me quitte, par exemple. Bon. Et déjà, la séparation, quand on a fini de travailler sur le manuscrit, et vu la couverture, et la quatrième de couverture, et tout ça, l'idée qu'il m'appartient plus à ce moment-là, non? Il est lu par d'autres, aimé par d'autres, etc. C'était toujours pour moi un tout petit peu difficile. Probablement, je les aimais trop. Je les ai un peu sacralisés.
Vous voyez, on revient à la première question que je vous ai posée, un métier d'amoureuse.
Ben voilà.
Vous avez répondu. Merci beaucoup, Marensel. On se retrouve pour le dernier épisode, l'épisode 5. Momo en Inde. À demain. C'était À Voix Nue avec Marensel, réalisation Gaëlle Gilon, prise de son Florent Layani, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.